Chers auditeurs, bonsoir. Philippe Michaud-Bravard, c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour ce nouveau Libre Journal en direct. Et je souhaiterais commencer cette nouvelle édition par un hommage sobre au jeune Quentin de Ranque qui a été lynché il y a 15 jours par des militants d'extrême gauche issus de la Jeune Garde. C'était un jeune catholique qui défendait ses convictions pacifiquement, une belle personnalité, solide et dévouée aux autres. Et je souhaitais, au commencement de cette émission, offrir à ses parents et à ses amis éprouvés ce témoignage de sympathie. De nombreuses messes ont été offertes pour lui et pour ses parents. S'y associer est la manière la plus digne de saluer la mémoire de Quentin, loin des postures politiciennes hypocrites, des polémiques indécentes et des écrans de fumée. Cette émission sera consacrée à un sujet d'une actualité brûlante. Au moment où l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture la loi sur l'euthanasie, nous allons évoquer le droit naturel, une ressource pour notre temps, à l'occasion de la sortie des actes du colloque organisé par Aude Mirkovic et par l'association Famille et Liberté, il y a maintenant 2 ans, au mois de novembre 2023, le 25 novembre 2023, sur cette question tout à fait essentielle. Alors, dans une première partie d'émission, j'aurai la joie d'avoir dans ce Libre Journal par Zoom Aude Mirkovic pour évoquer le droit naturel, une ressource pour notre temps. Et dans la deuxième partie d'émission, je recevrai Grégoire Pupinck pour évoquer la loi sur l'euthanasie qui vient d'être adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et qui va maintenant passer au Sénat. Alors, Aude Mirkovic, vous êtes déjà parmi nous, par Zoom. Bonsoir.
Bonsoir, Philippe.
Alors, vous venez de publier les actes du très beau colloque que vous aviez organisé à Paris il y a un tout petit peu plus de 2 ans, le 25 novembre 2023, avec l'association Famille et Liberté, un ouvrage publié aux éditions Bollen qui réunit les communications qui ont été présentées au cours de ce colloque, sous ce titre « Le droit naturel, une ressource pour notre temps », le sous-titre éclairant grandement l'ouvrage. Le but de votre ouvrage, comme l'était le but du colloque, étant de proposer des solutions pour sortir le droit de la crise qu'il connaît.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Philippe Michaud-Bravard, je vous remercie que vous êtes modeste, donc vous n'en parlez pas, mais vous nous avez fait l'amitié et l'honneur de participer à ce colloque. Et nous avons la joie, en effet, de sortir aujourd'hui les actes, parce que eh bien, le droit traverse une crise qui n'a échappé à personne, parce qu'elle entraîne la société entière avec lui. Et nous avons tous constaté comme le Parlement adopte des lois injustes. Hein, vous avez parlé il y a un instant du débat en cours sur l'euthanasie, mais ce n'est pas le seul exemple, malheureusement. On voit aussi les lois, les textes s'accumuler pour devenir un ensemble inextricable et parfois incompréhensible. On voit également d'autres lois qui ne sont carrément pas appliquées. Et puis surtout, il y a une crise de légitimité, une crise de confiance dans le droit, que chacun se pose la question. Qui a confiance dans la justice en saisissant un tribunal? Qui pense que ça vaut encore la peine d'aller porter plainte, etc. Donc ce dysfonctionnement du droit, et puis ce qui est lié à cette crise de légitimité, en fait, est dû essentiellement au fait que le droit a été privé de son fondement transcendant, c'est-à-dire de la référence à la justice transcendante qu'il est supposé servir, pour être réduit à un produit de la volonté. Que faire du droit un produit de la volonté, or volonté contre volonté, eh bien le droit aujourd'hui dégénère en un rapport de force dont nous faisons tous les frais et qui est l'exact inverse du droit. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas voulu nous résigner à ce constat lamentable et nous avons voulu nous retrousser les manches et puis nous dire bon ben, quelle est la solution? Et là, la bonne nouvelle, c'est que la solution existe. En fait, il n'y a rien à inventer. Il y a une solution universelle, intemporelle, elle s'appelle le droit naturel. Et ce n'est pas seulement un beau souvenir ou un souvenir tout court, c'est une ressource opérationnelle pour notre temps. Et c'est l'objectif justement de ce livre, de le dire pour que les gens le sachent et puis qu'ensuite chacun puisse s'en inspirer.
Alors derrière la crise du droit, il y a un enjeu fondamental, car si beaucoup de nos compatriotes n'ont plus confiance dans la justice, si la loi pour nombre d'entre elles, si la loi fréquemment est contestée, si sa légitimité est discutée, derrière, il y a une crise de confiance particulièrement grave en ce que cette crise de confiance, elle mine la société tout entière et elle nous empêche de constituer une société digne de ce nom. Elle contribue à la destruction de notre société, de l'esprit communautaire qui doit unir les membres de la cité, elle contribue à empêcher l'éclosion de cette amitié politique sans laquelle il n'y a pas de cité solide.
Ben oui, parce que en effet, le droit ainsi réduit à un produit de la volonté bien fracture le lien social et au lieu d'être un bien commun, une œuvre commune, quelque chose qui transcende justement les individualités, les individus et qui appartiennent à l'humanité hein, et à la société que nous formons, eh bien le droit est devenu un rapport de force. Mais la raison pour laquelle nous proposons le droit naturel, c'est parce que à l'origine de cette situation, en fait, il y a une philosophie à l'œuvre. C'est un choix philosophique qui doit être fait entre deux conceptions du droit. Donc, est-ce que je peux maintenant
Bien
les
sûr, bien sûr.
voilà.
Ce que vous soulignez dans votre introduction, c'est effectivement que depuis l'Antiquité, il y a deux conceptions du droit qui s'opposent. Et nous avons fait, il y a 230 ans, un choix philosophique en suivant une ligne qui montre toutes ses limites. On est au bout des conséquences de ce choix. Et il serait peut-être bon de se réapproprier l'autre tradition, celle qui a fait ses preuves pendant très longtemps.
Exactement. Alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit, en effet, le positivisme juridique que je vais décrire dans un instant est à l'œuvre depuis des siècles, mais il montre enfin son vrai visage. Et c'est aussi notre chance, parce que, en fait, une doctrine philosophique, elle met du temps à infuser une société et à vraiment influencer les rouages de la société tout entière. Donc là, maintenant, nous y sommes, et donc nous pouvons aujourd'hui comprendre facilement de quoi il s'agit. Alors, de quoi s'agit-il justement? Eh bien, de façon assez schématique, parce que j'ai peu de temps, hein, la doctrine du droit naturel vient de la philosophie grecque, essentiellement Aristote, qui a inspiré les juristes romains comme Cicéron, hein, pour citer le plus connu, et qui a été redécouverte ensuite par les juristes médiévaux et théorisée notamment par saint Thomas d'Aquin. Et alors, dans cette perspective philosophique du droit naturel, qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est ce qui est juste. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'est pas bien avancé, me direz-vous, parce que comment savoir ce qui est juste? Eh bien, c'est là aussi ce qu'est le droit. Le droit est un art, l'art du bon et du juste. le droit est l'art de rechercher ce juste. Mais
C'est-à-dire dans l'attribution des choses, l'art d'attribuer à chacun la part qui lui revient, la part équilibrée.
exactement, mais cela suppose d'accepter que le juste existe en soi, que le juste préexiste à la volonté humaine, qu'il est supérieur à la volonté humaine, et que le travail des juristes et des êtres humains en général, hein, parce que c'est valable dans toutes les relations humaines, le travail de notre raison, c'est de rechercher ce juste, avec évidemment le but de s'y conformer. Mais le droit est bien une œuvre de la raison, parce qu'il s'agit de rechercher le juste, mais non pas de le décider. Et justement, la pensée moderne a opéré une rupture ici, parce que de façon encore une fois assez schématique, l'homme moderne considère tout ce qu'il n'a pas choisi, tout ce qu'il n'a pas décidé, comme étant une entrave insupportable à sa liberté, et en tant qu'entrave à sa liberté, dont il faut s'émanciper. Et dans le domaine du droit, la justice transcendante, supérieure à la volonté humaine comme finalité, est considérée comme une soumission insupportable à la morale, dont il faut se libérer. Et donc, moi, je ne suis pas philosophe, hein, donc je ne me risquerai pas à détailler les différentes philosophies du droit moderne, mais en tout cas, elles ont tout en commun de considérer le droit comme un produit de la volonté. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la fracture, c'est que la raison, cette fois-ci, ne recherche plus en dehors d'elle et au-dessus d'elle le juste, c'est que la raison entend décider ce qui est juste. Et comme nous ne sommes pas Robinson Crusoé sur une île déserte, mais que nous vivons en société, il faut bien accepter de décider ensemble ce juste, et ça s'exprime de façon remarquable dans la définition de la loi qui est donnée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La loi est l'expression de la volonté générale.
Article 6.
C'est ça, tout est dit ici, c'est que le droit est un produit de la volonté. Dans une perspective de droit naturel, éventuellement, la volonté générale peut être une méthode d'élaboration des règles. Mais la volonté générale ne s'estime pas souveraine. On recherche ensemble la réponse juste à une question donnée, la solution juste à un problème, alors que dans le positivisme dans lequel nous vivons, eh bien, la volonté humaine est le seul critère pour elle-même. Donc cette conception du droit réduit le droit à la loi en vigueur. C'est elle, le droit, c'est ce que la loi dit, quoi qu'elle dise. Donc le droit se réduit au droit positif. Et c'est pourquoi on appelle cette doctrine le positivisme juridique. Donc aujourd'hui, le positivisme juridique est arrivé vraiment à son achèvement, parce qu'en réalité, pendant des générations, on a enseigné le droit positif à l'université uniquement, mais enfin, les juristes et les gens et la société en général se comportaient comme si, en réalité, il fallait rechercher le bien, éviter le mal, et donc discerner ce qui est juste. Mais quelques générations plus tard, eh bien, aujourd'hui, le positivisme s'applique vraiment au premier degré, et d'ailleurs, il devient totalitaire, hein, il n'y a même plus de place pour la conscience individuelle. Et donc, c'est pourquoi c'est le bon moment pour redécouvrir l'antidote, hein, c'est-à-dire le droit naturel.
Donc nous sommes passés d'une conception du droit qui insistait sur l'idée de discernement, discerner ce qui est juste, à une conception qui insiste sur le verbe vouloir, et derrière, il y a une rupture avec l'idée de transcendance, de sorte à affirmer ce qui est devenu le dogme de nos sociétés occidentales contemporaines, c'est-à-dire l'autonomie de la volonté.
C'est ça, c'est que le positivisme juridique s'inscrit dans une mouvance philosophique plus vaste, hein, qui est le volontarisme philosophique, qui est le culte de la toute-puissance de la volonté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme moderne pense que tout ce qu'il n'a pas décidé est une entrave à sa liberté, eh bien il faut tout décider soi-même. Et c'est vraiment la volonté doit être omniprésente. Et donc on le voit bien aujourd'hui, hein, il y a un refus de venir au monde avec une nature reçue, donnée, des circonstances reçues. Tout ce qui est reçu en venant au monde est rejeté au profit d'une décision qu'il faudrait ensuite prendre. Alors je vais prendre quelques exemples, hein. Nous venons au monde avec eh bien, une famille, un pays, une patrie, une date de naissance, un corps sexué. Homme ou femme, une nature, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des lions ou des chats, eh bien, tous ces éléments sont remis en cause. hein, et on pourrait en parler des heures, mais de façon très rapide, on voit comme la famille est rejetée, enfin la part de la volonté dans la famille est de plus importante, hein, les réformes successives entendent fonder, par exemple, la filiation sur la pure volonté, en laissant de côté la réalité charnelle de la procréation pour se fonder sur le projet parental, qui est en fait la volonté d'être parent d'un adulte. On voit comme la patrie, comme héritage reçu des aïeux, est ringardisée, disqualifiée au profit de la nationalité, qui est un concept administratif, enfin, qui est un lien de nature administratif entre un individu et une structure, un État, donc pas du tout.
Avec l'idée derrière qu'il y aurait une sorte de droit pour n'importe quel individu d'aller poser ses valises là où il le souhaite.
Oui, exactement. Tout à fait, toujours la volonté de se rattacher à tel État plutôt que tel autre, en fait de se refaire en permanence. Et cette tendance, évidemment, s'illustre le plus dans le refus de notre corps sexué, de l'identité d'homme ou de femme. Là, la réalité de ce corps reçu avec notre venue au monde, bien, cette réalité est disqualifiée, considérée comme sans intérêt au profit du ressenti que l'individu a de lui-même, de la façon dont lui-même se pense, se voit, se recrée finalement, se veut. Donc le positivisme qui était fondé sur le fait, sur la volonté, je fais ce que je veux, nous ne faisons que ce que nous voulons, nous n'obéissons qu'aux lois que nous nous sommes données, bien ce je fais ce que je veux se décline aujourd'hui en je suis ce que je veux, hein, va encore plus loin, mais en même temps, ça permet justement de réaliser l'impasse dans laquelle ça nous mène.
Alors, vous l'avez souligné dans votre introduction, l'important, la première chose à faire dans cette réflexion pour surmonter la crise du droit est d'en revenir aux définitions. D'en revenir aux définitions, à la définition du droit, ce que vous avez effectué au cours de ces dernières minutes. Vous avez souligné l'importance de la tradition du droit naturel, il faut maintenant définir ce qu'est le droit naturel. Qu'entend-on par droit naturel?
Alors, donc je rappelle, enfin, moi je ne suis pas philosophe, donc je ne prétends pas peut-être présenter la philosophie du droit naturel de la même manière que tel ou tel philosophe, mais en même temps je pense que c'est aussi ma chance et la chance pour nos auditeurs, parce que pour tout dire, je suis venue au droit naturel, moi par nécessité existentielle. Je n'ai pas du tout été formée comme ça à l'université, formée en bonne positiviste comme tous mes camarades, comme toute ma génération, et je suis venue au droit naturel pour trouver un sens, justement pour que je voyais bien qu'il manquait quelque chose au droit que j'étudiais et que je m'apprêtais à pratiquer. Et j'ai très souvent été découragée quand je me suis intéressée à la philosophie du droit et au droit naturel. J'ai été découragée par des exposés savants qui étaient très intéressants, mais qui, donc voilà, l'exposé du droit naturel selon Saint Thomas, selon Aristote, ben non pas Aristote ne développe pas vraiment directement le droit naturel, mais enfin la notion de justice. Et tout ça était passionnant, mais il n'y avait absolument aucun rapport avec notre vie, avec notre société, avec les circonstances qui sont les nôtres. Donc c'est pourquoi je me risque à proposer le droit naturel, peut-être pas de façon très académique, mais d'une manière qui, je l'espère, au moins pourra nous servir de ressources opérationnelles, justement pour l'époque qui est la nôtre.
Alors peut-être peut-on simplement donner une clé de lecture, le droit naturel classique, car il y a aussi une conception moderne du droit naturel développée par l'école de Grotius, ce n'est pas de cela dont nous parlons du droit naturel classique tel que défini par la réflexion d'Aristote sur la justice naturelle, de Cicéron sur la droite raison et surtout de Saint Thomas sur la loi naturelle. Le droit naturel classique reposant sur la conviction qu'il y a un ordre naturel du monde et l'appréciation de ce droit naturel découlant de l'articulation entre le respect de cet ordre naturel et notamment le respect de la nature humaine. Et dans cet ouvrage, Le droit naturel, une ressource pour notre temps, la première intervention, celle de François-Xavier Clément, repose sur la notion de nature humaine, la nature humaine, concept fondamental. Voilà, l'articulation entre le respect de cet ordre naturel et notamment de cette nature humaine et le souci de ce qui est juste et équitable. L'articulation entre la combinaison de ces deux notions essentielles permettent, par un travail de discernement, de mettre en valeur les exigences de ce que l'on appelle le droit naturel.
Oui, exactement. C'est-à-dire que la recherche du juste est l'objectif et le respect de la nature humaine en fait partie. Alors, comment respecter la nature humaine ? Eh bien, je pense que en deux mots aujourd'hui, d'abord en acceptant qu'elle existe, en rappelant qu'elle existe et en acceptant d'en tenir compte. Et justement, toute cette philosophie volontariste que j'ai décrite tout à l'heure, ce refus de tout ce que nous avons reçu pour nous recréer nous-mêmes et nous redéfinir nous-mêmes selon nos propres vues, c'est un refus justement d'une nature humaine reçue. Donc déjà, accepter qu'elle existe, que nous ne sommes pas nos propres créateurs, que nous venons au monde dans et avec ces natures, cette nature. Et puis ensuite, en prenant la peine de la connaître, de s'informer, de bénéficier de toute l'expérience et expertise que notre humanité a accumulée pour nous qui en bénéficions aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas là pour rien. Notre nature humaine est finalisée, nous avons un but, et nous ne pourrons nous réaliser qu'en conformité avec cette nature. Si je prends un exemple pour concrétiser un petit peu, moi je travaille avec l'association Juriste pour l'enfance, et nous travaillons beaucoup sur l'éducation à la sexualité, et nous constatons l'impasse dans laquelle se fourvoie l'éducation des jeunes à la sexualité. C'est que le seul critère qui est donné aux jeunes dans le cas de l'éducation à la sexualité, c'est celui du consentement. Donc le consentement en soi, c'est un concept positif, on peut en parler, mais en faire le seul critère, en fait, est réducteur, limité, et les empêche d'avoir les clés pour s'épanouir dans la nature qui est la leur, la nature humaine, qui est une nature relationnelle, dans laquelle la sexualité a un sens, qui ne concerne pas seulement des individus juxtaposés, mais qui s'incarne dans un projet, dans le don de soi-même, etc. Donc tout ça ne leur est pas dit.
D'autant qu'il peut être extrêmement trompeur de s'appuyer sur la notion de consentement en évacuant l'idée de la finalité de l'acte, car une personne dont l'esprit est manipulé, trompé, peut donner son consentement à quelque chose qui est objectivement mauvais et qui l'entraîne sur une pente qu'elle n'aurait pas souhaité suivre.
Alors tout à fait, c'est que pour donner un consentement en connaissance de cause et de façon éclairée et libre, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, c'est très clair. Moi, je n'ai pas besoin de lire entre les lignes. Si on va sur les sites de l'éducation nationale, sur les ressources et du SCOL, etc., les questions sont posées très clairement. Ça vise les élèves, les collégiens. Quel est le bon âge pour la première relation sexuelle? La réponse, c'est quand tu te sens prêt. Quand la question est quelles sont les choses à faire, les bonnes ou à ne pas faire, la réponse est comme tu veux, du moment que l'autre est d'accord. Donc le seul critère qui est donné, c'est le consentement, donc on revient à la volonté, encore une fois. Et qu'est-ce que nous constatons comme résultat ? Eh bien, nous constatons chez les jeunes une défiance d'un sexe envers l'autre, des jeunes qui se disent asexués, ce qui est quand même très dommage, comme conclusion. On constate aussi une santé mentale très dégradée chez les jeunes, une perte de confiance et de foi dans la relation, dans l'engagement, et même jusqu'à un désintérêt pour la procréation, pour avoir des enfants, comme le montre la baisse de la natalité. Donc, vous voyez, la simple observation du réel, qui est une des ressources du droit naturel, j'en parlerai, si vous voulez bien, après, de la méthode du droit naturel, l'observation de la nature, de l'ordre des choses, l'expérience acquise par les générations d'avant et par la nôtre, ce que nous pouvons constater aujourd'hui qui marche, qui ne marche pas, qui rend les gens heureux, qui les rend épanouis, ou au contraire, qui les enferme dans la dépression, etc., eh bien, tout ça nous permet quand même d'avoir une certaine idée des exigences, des règles, des lois de la nature qui est la nôtre, et puis d'en tenir compte pour parvenir à bah, au bonheur, tout simplement, hein, à ce que chacun puisse se réaliser en fonction de ce qu'il est, en tant qu'être humain en général, en tant que fille, en tant que garçon en particulier. Voilà, donc pourquoi ne pas dire tout ça aux jeunes? Eh bien parce que ça s'inscrit dans ce refus justement de se référer à une nature, de se référer à un ordre des choses. Et le droit naturel, c'est une approche qui nous relie justement, déjà qui nous informe que cet ordre naturel existe, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je suis convaincue, et c'est aussi le but de ce livre, que proposer le droit naturel, c'est déjà le premier pas, parce que pour adhérer à une démarche, pour s'en inspirer, bah, il faut déjà la connaître. Voilà, et c'est d'autant plus urgent chez les jeunes.
Alors, vous évoquiez à l'instant la méthode. Le droit naturel n'a pas. Le tort serait d'imaginer le droit naturel comme une collection de préceptes qu'il suffirait d'appliquer, ou d'imaginer que le droit naturel a réponse à tout et est en mesure de régir toutes les situations. Ce n'est pas le cas. Le droit naturel fait appel à notre discernement parce que, par nature, l'homme est un être raisonnable. Et par conséquent, est appelé à discerner ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est bien et ce qui est mal. Le droit naturel n'a donc pas réponse à tout. Le droit positif a sa raison d'être. Quelle doit être l'articulation? Quelle est l'articulation entre le droit naturel et le droit positif dans un ordre juridique convenablement établi.
Alors, juste avant de. Est-ce que je peux juste dire un mot de la méthode que
Bien
vous
sûr.
venez d'évoquer? Parce que c'est vrai que, une fois qu'on admet que la raison recherche le juste, eh bien, la doctrine du droit naturel propose une méthode. Cette méthode, elle est très simple. Elle est fondée sur l'observation du réel et la discussion. Donc, ça paraît tout bête, mais on voit aujourd'hui comme le réel est disqualifié et comme la discussion est difficile dans notre société. Hein, on dérape très vite vers des anathèmes, la disqualification de la personne au lieu de discuter ses arguments, etc. Donc ces deux aspects de la méthode sont essentiels. Certes, la méthode, elle a une finalité. Le but, c'est toujours de rechercher le juste. Donc il ne faut pas confondre le nord avec la boussole. Hein, la méthode, c'est la boussole. N'empêche que cette boussole est essentielle. Et donc cette méthode de l'observation du réel, c'est le fait d'observer. Ça ne veut pas dire de rechercher des solutions toutes faites dans les étoiles ou dans les fleurs. Ça veut dire d'observer l'ordre des choses, d'observer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de tenir compte de l'expérience du passé, d'envisager les conséquences futures des différentes options qu'on a sur la table avant de se décider. Dans le processus législatif, c'est ce qu'on appelle l'étude d'impact, qui malheureusement aujourd'hui est de plus en plus bâclée, ou en tout cas qui est faite, mais après ça, on n'en tient pas compte. Donc cette observation du réel, elle se fait dans le cadre de la discussion, l'échange des points de vue, on pourrait dire le brainstorming, pardon si j'emploie un mot anglais, mais pour employer un mot un petit peu qui parle aux gens aujourd'hui, on sait très bien que quand on est face à une décision à prendre tout seul, si on demande son avis à quelqu'un ou à deux ou trois personnes, eh bien ensemble, rien que, enfin, le processus de la discussion nous fait toujours progresser. Hein, c'est-à-dire que la confrontation des points de vue, ce qu'on appelle la disputatio même, ça peut être une opposition de points de vue, eh bien, va permettre d'affiner un premier avis qu'on pouvait avoir pour justement progresser dans le discernement vers le juste. Donc cette méthode du droit naturel, l'observation du réel dans le cadre d'une discussion, en fait, c'est une méthode qui est valable dans tous les processus de décision. Et même y compris si on ne se réfère pas explicitement à un juste transcendant, parce que de toute façon, c'est même presque pas la peine de s'y référer explicitement dans la mesure où ce
Normal.
juste transcendant, c'est une intuition de notre conscience. C'est inscrit dans la raison humaine. Ça s'appelle la loi naturelle. Alors on peut l'étouffer plus ou moins, elle peut être déformée, mais en fait, elle est toujours là. Donc c'est pourquoi cette méthode du droit naturel, elle mérite d'être connue et d'être mise en œuvre. Parce que même sans se référer explicitement à une option philosophique, déjà, elle fait toujours progresser le processus de réflexion. Voilà, et pardonnez-moi cette digression, et du coup, maintenant, j'en viens à
Mais
votre
qui
question.
permet de souligner un aspect très important, le retour au réel, qui est l'un des aspects l'un des remèdes les plus importants pour sortir de la crise dans laquelle nous nous débattons. Revenir au réel et rompre avec les utopies, les chimères, les idéologies qui nous en éloignent.
Oui, et surtout, justement, d'accepter de constater ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, on a entamé le processus de révision de la loi de bioéthique avec le lancement des États généraux. Depuis le début des lois de bioéthique, systématiquement, on a légalisé des transgressions, soi-disant, à titre expérimental, avec comme objectif de faire le bilan au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, on faisait le bilan qui était négatif, mais au lieu d'en tenir compte, juste de tenir compte des résultats de la réalité, du retour du réel, eh bien, on pérennisait ces processus. Voilà, donc c'est vrai que le retour au réel est vraiment nous offre une marge de progrès à portée de la main, ce qui est quand même encourageant. Et pour répondre à votre question sur l'articulation entre le droit naturel et le droit positif, eh bien, même dans une perspective de droit naturel, le droit positif est absolument essentiel. C'est-à-dire que ce serait épuisant et impraticable si à chaque décision, il fallait en permanence reprendre à zéro tout le processus de discernement pour arriver à un choix considéré comme le plus juste. Le travail législatif qui se fait au Parlement va profiter à tout le monde. Justement, ce travail de discernement, d'analyser une question, de l'envisager au regard de l'observation de la nature des choses, en fonction de l'expérience passée, dans la perspective d'une étude d'impact, en organisant des auditions pluridisciplinaires pour organiser la confrontation des points de vue. Tout ce travail-là, il se fait au Parlement et ça permet ensuite à tous les citoyens d'en bénéficier sans avoir besoin à chaque fois de reprendre tout à zéro. Donc oui, le droit positif est tout à fait naturel, est tout à fait pas naturel, enfin tout à fait nécessaire et s'il a vocation à nous aider dans ce processus de discernement du juste. Il a vocation à nous aider et à rendre les choix plus faciles. Parce que parfois, le discernement va être compliqué, hein. Vous voyez, on parlera tout à l'heure avec Grégoire Pupin de la loi sur l'euthanasie. Mais le discernement de la personne en grande souffrance, qui se sent inutile, qui se sent rejetée, il n'est pas simple. Donc, de pouvoir se rattacher justement à des règles établies et qui nous aident à discerner est, à mon avis, une ressource très précieuse, donc il ne faut pas se passer.
Et
Mais le
puis
problème.
très très concrètement, nous avons plein de situations qui sont neutres et pour lesquelles il faut faire un choix. Et là, il y a une volonté à exprimer. Vous donniez un exemple très très communément cité du code de la route. Rouler à gauche ou rouler à droite, ça ne relève pas du droit naturel, mais il faut fixer une règle. Et par conséquent, à un moment donné, il faut que celui qui a le pouvoir normatif exprime une volonté et définisse une règle applicable pour tous. Eh bien, ici, on roule à droite, ici, on roule à gauche, mais il faut que tout le monde roule dans le même sens, sinon on ne peut plus circuler.
Exactement, tout à fait. Le droit positif, voilà, est indispensable, notamment dans toutes ces matières qui ne relèvent pas de la morale transcendante. En effet, il n'est pas nécessaire de se référer à la justice transcendante pour décider de rouler à droite ou à gauche. Mais en revanche, une fois qu'on a décidé de rouler à droite, il devient juste de le faire parce que sinon, on met les autres en danger, on se met soi-même en danger, etc. Et puis, on a besoin de ces règles parce que sinon, la vie en société serait impraticable. Mais le problème, c'est que la loi positive, la loi en vigueur, va nous aider dans ce discernement en vue de relations justes, de relations sociales justes, si elle-même est juste. Or, eh bien, nous avons la difficulté que nous vivons dans un contexte dans lequel certaines lois sont injustes. Et par conséquent, la loi ne nous aide pas au discernement moral. Mais en revanche, elle le rend même encore plus difficile. Vous voyez par exemple un couple qui est en désir d'enfant et qui n'arrive pas à concevoir, eh bien, va être aidé au discernement lorsque la loi ne permet pas le recours par exemple, à la gestation pour autrui. Mais ce couple peut être tenté de recourir à cette technique. Mais si la loi le lui interdit, elle va lui faciliter le discernement. En revanche, le jour où la loi légalise ce genre de technique, eh bien, le choix d'y renoncer va devenir beaucoup plus difficile et même dans certains cas carrément héroïque. Donc la loi n'est pas neutre et elle peut nous aider au discernement moral ou au contraire, elle peut nous le rendre très compliqué, voire même parfois justement pousser ce choix jusqu'à l'héroïsme.
Et nous le verrons avec Grégoire Pupin dans quelques instants à propos de la loi sur l'euthanasie. La loi positive peut même soumettre certains particuliers à des questions de conscience épineuses, en ce que obéir à la loi conduit à commettre des actes injustes et suivre sa conscience conduit à se placer hors la loi et à s'exposer aux sanctions que prévoit celle-ci.
C'est ça le problème du positivisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, maintenant qu'il est appliqué, qu'il est vraiment appliqué, c'est-à-dire que la loi positive ne reconnaît au-dessus d'elle aucune valeur supérieure, et elle ne tolère même pas que les individus eh bien, fassent appel à leur morale individuelle, parce que en fait, le positivisme est fondé sur le principe qu'il n'existe pas de justice transcendante, que chacun doit se donner ses propres lois, chacun sa morale, chacun ses valeurs, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Mais dans ce système, chacun devrait pouvoir penser ce qu'il veut, et ce n'est absolument pas le cas, justement. C'est paradoxal. Sous prétexte de nous libérer, entre guillemets, de la morale transcendante, en fait, le positivisme juridique nous soumet au joug de la décision prise par quelques-uns au Parlement, et c'est encore pire que la morale, parce que la morale, au moins, elle laisse le libre arbitre, alors que là, la loi positive envoie en prison.
Elle invente une sorte de nouvelle morale, de morale issue d'un rapport de force, issue de la volonté d'une majorité, elle-même exprimant la volonté de forces médiatiques et de forces économiques qui dominent ces forces médiatiques.
C'est tout le paradoxe, sous prétexte de chacun fait ce qu'il veut, en réalité d'imposer des règles de plus en plus nombreuses, de plus en plus invasives. Et si on prend par exemple la loi sur l'avortement, regardez le slogan, mon corps, mon choix, je fais ce que je veux. Et pourtant la loi permet l'avortement jusqu'à 14 semaines. Mais que devient le slogan, mon corps, mon choix, après 14 semaines? Il n'existe plus. En réalité, une limite est bel et bien imposée, et par ceux-là même qui prétendent pourtant qu'il n'existe pas de limite. Et pourtant, ils en imposent une à ceci près que cette fois-ci, elle est arbitraire et que du coup, elle est aussitôt contestée. Et c'est pourquoi la loi est systématiquement contestée dès qu'elle ne nous arrange pas, parce qu'en réalité, elle ne se présente plus elle-même comme visant à assurer la justice dans les relations sociales. Elle n'est présentée que comme l'opinion relative de quelques-uns du moment et elle n'a plus rien de convaincant. Et quitte à ce que la loi soit l'expression d'une volonté, pourquoi pas la mienne? Et donc c'est vrai qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si le droit est réduit à un produit de la volonté, volonté contre volonté, eh bien on revient toujours au rapport de force, ce qui est encore une fois l'inverse du droit.
Tout devient relatif et contestable. Il y a aujourd'hui trois questions qui témoignent des effets dommageables du rejet de l'autorité du droit naturel. La première question, c'est cette théorie du genre que vous avez évoquée tout à l'heure, et le désordre que cette théorie engendre dans l'état civil, question que vous abordez dans votre introduction, dans l'introduction de cet ouvrage, Le droit naturel, une ressource pour notre temps, qui réunit les communications du colloque que vous avez organisé le 25 novembre 2023.
Oui, justement, cette théorie, cette idéologie du genre qui est à l'œuvre, notamment à travers la modification de la mention du sexe à l'état civil, elle illustre bien justement la perte de contact avec la réalité et la confusion que cela entraîne. Donc je rappelle que le Code civil permet aujourd'hui à toute personne majeure d'obtenir la modification de la mention de son sexe à l'état civil si elle apporte des faits établissant qu'elle est connue et qu'elle se présente dans l'autre sexe. Alors, entre nous, j'aurais bien aimé que le législateur explique ce que signifie être connu et se présenter dans le sexe féminin ou dans le sexe masculin, parce qu'à partir du moment où on disqualifie la réalité corporelle biologique comme pertinente pour nous indiquer qui est un homme, qui est une femme, qu'est-ce que ça veut dire se présenter dans le sexe masculin ou féminin, si ce n'est dérouler une série de stéréotypes par ailleurs prétendument décriés? Bon, mais ça, c'est encore autre chose. En tout cas, il est donc possible de modifier la mention de son sexe à partir du moment où finalement on s'affirme dans l'autre sexe. Donc ce qu'on appelle l'identité de genre, entre guillemets, le ressenti que chacun a de lui-même, la façon dont chacun se pense, eh bien, relègue sa qualité d'homme ou de femme biologique au rang des données sans importance et prend la place. Donc aujourd'hui, on permet à une personne de s'identifier homme ou femme à l'état civil en fonction de son ressenti. Et cette modification du droit a été revendiquée et accordée au nom du respect de la vie privée. Et ça, c'est encore un tour de passe-passe qu'il faut dénoncer parce que, en réalité, s'affirmer homme ou femme à l'état civil ne relève pas de la vie privée. Le ressenti de chacun, la façon dont lui-même se voit, en effet, relève de la sphère privée, mais doit y rester. Et à partir du moment où cela se traduit à l'état civil, en réalité, cela impacte la société tout entière, c'est-à-dire les autres. Déjà, les autres sont sommés de renoncer à leur propre perception du réel pour entrer dans le ressenti d'autrui, ce qui en réalité est très violent. C'est une violence sournoise, mais réelle. Et d'ailleurs, quitte à se placer sur le terrain des ressentis, pourquoi est-ce que le ressenti de l'un, qui lui se pense femme, devrait l'emporter sur le mien de ressenti, qui moi le ressens homme ? Ressenti contre ressenti, eh bien, on voit qu'on en vient encore à la loi du plus fort, au rapport de force. Et puis on peut citer en vrac, mais je ne vais pas m'attarder, des conséquences sans fin sur la vie sociale à partir du moment où le ressenti de l'intéressé comme homme ou femme, eh bien, remplace la réalité de ce qu'il est. On pense à la sécurité des femmes dans les prisons. Lorsqu'un délinquant homme s'identifie femme et demande à être incarcéré dans une prison pour femmes, mais il en va de même dans tous les lieux d'hébergement non mixtes, comme j'ai parlé des prisons, mais on peut aussi parler des internats scolaires. On peut par exemple parler des politiques publiques qui sont complètement déstabilisées. Que peuvent bien signifier les politiques de santé publique qui sont fondées sur des statistiques dans lesquelles on a des hommes qui ont des cancers de l'ovaire et des femmes des cancers de la prostate? Qu'est-ce que signifie ce genre de données? Comment est-ce qu'elles peuvent fonder des politiques solides, etc. Je donne souvent l'exemple de la parité. La parité, c'est un objectif transversal dans la vie publique aujourd'hui. Bon, on est pour ou on est contre, peu importe. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Mais en tout cas, c'est un fait. Et prenons le conseil d'administration d'une grande entreprise qui comporte 10 personnes. Il y a 5 hommes et 5 femmes à l'état civil. Mais en fait, ce sont tous des hommes biologiques. Est-ce que les auditeurs qui nous écoutent pensent que la parité est ici respectée? On voit bien que comme l'état civil n'a pas de pouvoir magique, en fait, cette parité et la vie sociale avec elle est réduite à un artifice. Voilà, donc je ne veux pas m'attarder, mais on voit bien comme la perte de contact avec le réel, en fait, sème le désordre, l'artifice et la violence aussi dans les relations sociales.
Il y a une deuxième question que nous n'aborderons pas ici et qui sera l'objet d'une émission spécifique, c'est la volonté de l'État de s'emparer de l'éducation des enfants au détriment des parents, qui s'exprime notamment par le programme EVARS dont il a été question il y a quelques instants, mais aussi par la négation de plus en plus marquée par nos institutions des spécificités de l'enseignement catholique, qui sont autant d'atteintes portées au droit naturel des parents de déterminer l'éducation de leurs enfants. Et puis, le troisième aspect, il touche à l'actualité la plus brûlante, c'est la question de l'euthanasie et le projet de loi qui est actuellement discuté au Parlement, l'euthanasie et le suicide assisté, que l'on veut ériger en droit au mépris de la nature humaine et de la dignité de tout homme.
Oui, en effet, je pense que Grégor va en parler après, mais je voudrais quand même rappeler à propos de l'intrusion de l'État dans la sphère éducative des parents, qui sont premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, que le droit positif lui-même consacre pourtant la primauté éducative des parents. Les déclarations internationales sont unanimes sur ce point. Et donc c'est pourquoi, comme je disais, même dans un système où on recherche le juste transcendant, le droit positif, il nous sert de repère et à nous de l'utiliser aussi. Le droit positif nous fournit des outils. Donc nous n'avons pas besoin de réclamer à l'État une faveur en tant que parents pour éduquer nos enfants. Ce droit et cette responsabilité sont reconnus par le droit. Donc, ils ne sont pas respectés actuellement, mais à nous, parents, de le revendiquer et surtout de l'exercer aussi, parce que ce n'est pas le tout de se lamenter du fait que l'État remplace les parents dans l'éducation des enfants, mais il ne faut pas aussi que les parents laissent la place vide, hein, à eux, à chacun d'entre nous, justement, d'assumer cette tâche. Donc voilà, le droit naturel, ce n'est pas bon juste à être proclamé, mais aussi à mettre en pratique, y compris par les parents.
Grégoire Pupinck, vous nous avez rejoint il y a quelques minutes déjà. La loi sur l'euthanasie qui est actuellement discutée au Parlement montre les effets dommageables de la négation de l'autorité du droit naturel.
Oui, alors merci beaucoup Philippe Pigeot-Bravard et merci Aude aussi Mirkovic de cette discussion sur le droit naturel. C'est toujours important. En fait, c'est très important. Je vous ai écouté avec attention pour vous dire la vérité. Et je me suis demandé comment est-ce que les auditeurs peuvent comprendre, entendre votre propos, tant la société est à certains égards éloignée, on va dire, de la compréhension de l'existence. Assez formelle quand même d'une morale objective. Tout le monde on ressent tous quand même très largement dans la société que quelque chose ne va pas. Je crois que ça, c'est vraiment un sentiment qui est très largement perçu, que ça, quelque chose ne va pas, que la société ne fonctionne pas, les relations entre les parents et les enfants sont difficiles. On a parlé de l'éducation, du rôle de l'État, que l'État souhaite en fait endoctriner les enfants. Enfin voilà. Vraiment, la société, on le voit bien, est profondément blessée, désorganisée, et on ne voit pas la solution. Alors, on rejette sur les gouvernants, on dit que c'est la faute de tel gouvernement. Alors, les gouvernements changent régulièrement. Donc,
Mais la politique est la même.
à chaque fois, on dit c'est la faute du gouvernement. Alors, tous les 2 ans, 3 ans, on en a un autre. Donc, c'est reparti pour un tour, mais finalement, on s'use à critiquer. Et pendant ce temps-là, la situation se dégrade. Et on ne comprend toujours pas pourquoi ça se dégrade et on est très désemparé. La population, je pense, est très désemparée. On est tous très désemparés face à cette situation. On voit bien comme un rouleau compresseur passer maintenant cette loi, ce texte sur l'euthanasie. Alors, ce texte a été accompagné de toute une propagande quand même depuis des années, à la télévision, partout, pour nous expliquer que c'était formidable, que c'était un vrai progrès. Mais la référence à la justice, effectivement, est disparue. Il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser, hein, le mot évidemment de morale, l'idée que la morale existe, en fait, hein, que la morale existe, qu'il y a un bien, un mal, la compréhension de la conscience aussi est complètement faussée. Aujourd'hui, on ne sait même pas vraiment définir ce qu'est la conscience. Vous demandez aux gens dans la rue, ou à des étudiants, qu'est-ce que la conscience? Ils vont penser que c'est un vague surmoi, ils vont penser que c'est la conscience psychologique, ça veut dire le fait de savoir qu'on existe, mais sans forcément référence au bien et au mal. Et donc, voilà, sans outils pour organiser sa vie, avec simplement, finalement, le ressenti, ça veut dire je ressens ce qui me fait mal, je ressens ce qui ne fait pas mal. Alors oui, il ne faut pas blesser, il ne faut pas faire mal aux autres. Il ne faut pas s'engager, il faut être sincère. Donc les valeurs deviennent toutes relatives, la sincérité, le ressenti, ne pas faire mal. Voilà, mais on se retrouve finalement à être incapable de construire quoi que ce soit. Ça nous isole quand même, parce que ça ne nous rend pas capable de nous engager, que ce soit à l'égard de nos partenaires, de nos conjoints, même à l'égard de nos parents, de nos enfants. Alors, je trouve qu'on est vraiment désemparés, profondément désemparés. Alors, évidemment, parler du droit naturel, c'est montrer, on va dire, que oui, effectivement, il existe une réalité qu'on a oubliée très largement, qui est celle du droit naturel, qui pourtant, on la ressent, c'est-à-dire qu'on ressent son manque. Il y a des choses, dont on devine l'existence lorsque l'on ressent le manque, lorsqu'on en ressent le manque. Donc, on ressent le manque de justice, on ressent le manque de morale. Mais on ne sait pas l'expliquer. Parce qu'en fait, on nous a dit qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de morale. Mais comme on en est privé, on en souffre. Et ben, c'est comme ça. Et donc, le droit naturel, oui, effectivement, c'est une réalité morale, il faut le dire, hein, et par conséquent juridique, qui s'appuie sur une ré, une, sur l'ob- sur la conscience, sur la conscience humaine, qui est capable, qui est un instrument pour comprendre, pour percevoir. le bien et le mal. La conscience n'est pas un surmoi, la conscience c'est comme un muscle, c'est comme un outil que l'on a pour comprendre, identifier ce qui est bien, ce qui est mal, et c'est avec ça ensuite qu'on construit. Et sur la base aussi d'une, alors on parle toujours aujourd'hui là d'anthropologie et de rupture anthropologique à propos de l'euthanasie, mais sur la base d'une conception de l'être humain. Voilà, d'une conception de l'être humain, ça veut dire d'une anthropologie, et c'est cette conception de l'être humain qui est fondamentale, parce que c'est en fonction d'elle qu'on va comprendre ensuite ce qui est bon pour l'homme et ce qui est mauvais pour l'homme, et ensuite, par conséquent, ce qui est bon et mal, ce qui est bien et mal.
On en revient
Donc,
toujours à cette question centrale de l'existence d'une nature humaine et d'essayer de définir ce qu'elle est et ce que sont ses exigences.
voilà, en fait, l'existence d'une nature humaine, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que l'homme existe, qu'il a certains tempéraments. Par contre, l'idée que
L'idée que l'homme soit une race spécifique et qu'il ne soit pas un être animé parmi les autres, tout le monde n'en est pas d'accord.
Voilà. Alors l'idée que l'homme est une spécificité, bon, maintenant ça s'est contesté avec l'animalisme. Ce que l'on voit, c'est quoi? C'est que l'homme est un corps et une intelligence et, pour les croyants, une âme. C'est les trois en même temps. Alors ceux qui vont nier l'âme vont dire l'homme n'est qu'un corps et une intelligence. Et ensuite, ils vont dire bah, finalement, c'est pas très différent des animaux qui ont aussi un corps et qui ont peut-être plus ou moins d'intelligence. Voilà. Alors ensuite, il y a quelle intelligence? De quelle intelligence parle-t-on? Est-ce que c'est l'intelligence du cheval ou du corbeau, du chien, ou est-ce que l'homme a une intelligence qui change en termes de nature? Est-ce qu'elle est d'un autre type? Parce que l'homme est capable d'avoir des concepts abstraits. Voilà, donc là, c'est des discussions, et sur ces discussions-là, effectivement, sur l'existence de l'âme, l'existence, bien sûr, de Dieu, est-ce que l'homme a été créé ou est-ce que l'homme est le fruit de l'évolution? Est-ce que l'homme est simplement un corps intelligent, voilà, ou est-ce que l'homme est un esprit avec un corps? Donc, en fonction de tout ça, eh bien, en fait, vous allez avoir différentes conceptions de la nature humaine et ensuite plusieurs conceptions du bien et du mal. Alors, c'est certain que dans une société qui est sécularisée, une société qui rejette même l'hypothèse d'un Dieu qui nous est créé, ça a des conséquences complètes sur l'ensemble de la morale et aussi sur les questions, bien sûr, de respect de la vie et de l'euthanasie.
Alors justement, nous allons évoquer avec vous l'euthanasie, la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté qui est actuellement en discussion au Parlement. Juste avant, chers auditeurs, vous allez écouter un petit bobino qui va vous rappeler que notre radio est une radio libre et indépendante, mais que cette liberté a un prix. Elle ne bénéficie d'aucune subvention et donc par conséquent, elle a besoin de l'aide de ses amis et de ses auditeurs pour continuer à exister, à prospérer et à réaliser les investissements qui sont nécessaires pour vous offrir des émissions de qualité.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, Grégoire Pupin, que cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, par 299 voix contre 226, la loi sur ce que l'on appelle la fin de vie, c'est-à-dire en fait la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, avec deux enseignements intéressants. D'une part, l'on relève le glissement de certains députés vers l'abstention ou vers l'opposition. Il y a moins de députés qui ont voté pour en deuxième lecture qu'en première lecture. Il y a surtout beaucoup plus de députés qui ont voté contre. Comme s'il y avait une prise de conscience qui était en train de s'opérer parmi au sein des travées de l'Assemblée, illustrée notamment par la tribune pluripartisane publiée dans le Figaro cette semaine par 42 parlementaires. Et puis d'autre part, le deuxième enseignement, l'Assemblée nationale vote en deuxième lecture en ayant refait tout le processus législatif moins d'un mois après le rejet du projet en première lecture par le Sénat, donc dans une atmosphère de précipitation, avec un manque de recul et de réflexion évidente, qui témoigne d'une volonté de précipiter l'adoption de ce texte au mépris des règles élémentaires de la discussion parlementaire. On peut dire que le débat en deuxième lecture a été un débat bâclé.
Voilà. Bon, le temps de débat a été fortement réduit. Il passait de 2 minutes à 1 minute pour discuter les amendements. Les amendements ont en partie été rejetés. Toute une série d'amendements ont été rejetés par le secrétariat et la présidence de l'Assemblée pour accélérer la procédure. Donc oui, il y a une volonté d'aller très vite. Il y a une volonté de faire passer ce texte avant. Alors certains disent avant l'été, d'autres disent avant la fin du mandat présidentiel. En tout cas, voilà, une volonté d'imposer ce changement. Encore une fois, l'acceptation de la reconnaissance ou la légalisation de l'euthanasie, c'est-à-dire de la mort volontaire, comme d'un droit et d'une liberté, il faut que tout le monde comprenne que il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect dont on va vous parler, c'est le cas de telle ou telle personne qui souffre et qui veut mourir. Voilà, ça, c'est ce qu'on vous dit pour vous faire accepter la loi. Tout comme à l'époque sur l'avortement, on nous parlait de quelques cas extrêmes pour nous faire accepter l'avortement. En disant, oui, mais que faites-vous dans le cas de ceci, le viol, le machin, voilà, des cas extrêmes. Mais le but, évidemment, c'est d'aller au-delà. L'effet de la loi, c'est effectivement la reconnaissance, l'affirmation par la France que le suicide est un bien, que la mort volontaire est un bien. Parce que si l'euthanasie ou le suicide deviennent un droit, comme le texte le dit, alors c'est un bien. Parce qu'un droit, c'est forcément un bien. Un droit ne peut pas être un moindre mal. Un droit est un bien. Et d'ailleurs, tous les promoteurs de l'euthanasie disent tous que le suicide est une grande liberté. Ils disent même que c'est l'ultime liberté. Donc pour eux, très clairement, la mort volontaire est un bien. Et si on dit cela dans notre droit, effectivement, ça change profondément non seulement notre droit, mais aussi la conception que notre société française se fait de la nature humaine, de l'être humain, de sa liberté, de son bien. Donc ça, c'est au plan philosophique.
Ensuite, et on retrouve ce dogme de l'autonomie de la volonté que nous évoquions tout à l'heure avec Aude Mirkovic, la volonté ici de choisir le moment de sa mort et les conditions de sa mort.
Voilà. C'est un aspect essentiel du glissement, de fondement du droit. C'est très intéressant. Par exemple, à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, nulle part il est mentionné dans la Convention européenne, ou même d'ailleurs pareil dans les textes des Nations Unies, l'autonomie ou la liberté individuelle comme étant un droit en soi. Or, progressivement, ce que l'on voit, c'est qu'avec la révolution culturelle dans laquelle nous sommes entraînés en Occident, eh bien, c'est l'autonomie, c'est la liberté individuelle qui devient le nouveau fondement du droit. Autrefois, c'était le bien, c'était la dignité, c'était l'accomplissement de la nature humaine. Maintenant, c'est simplement l'autodétermination, parce qu'on estime, de façon majoritaire peut-être encore, que l'homme, l'individu, la personne n'a pas de nature humaine, et donc c'est à chacun de définir sa propre nature, sa propre identité. Et donc, l'expression de cette définition, ça se fait par l'autonomie, le fait de se donner à soi-même sa norme. Donc il y a au plan philosophique des conséquences majeures par ce texte. Il y a des conséquences majeures aussi au plan religieux, parce qu'évidemment c'est renverser le précepte fondamental de l'interdit de tuer. C'est d'une certaine manière dire que chaque personne est plus forte que Dieu, parce que fondamentalement dans la civilisation humaine, le respect de la vie est intimement lié au respect de Dieu. Et donc là, c'est réintroduire la mort volontaire et donc effectivement libérer l'homme, disent-ils, émanciper l'homme du respect sacré de la vie. Donc ça, c'est sur le plan symbolique. De transgression ultime, majeure. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect dont on pourra parler, l'aspect social, les conséquences que cela aura sur la société, qui sont des conséquences importantes. Et je reviens à la comparaison avec l'avortement. En fait, on voit bien que les conséquences de la généralisation en France de l'avortement sont immenses, y compris sur les mœurs. sur la façon de se comporter, sur le rapport à la vie, mais c'est la légalisation de l'avortement qui aussi a permis un certain nombre d'autres pratiques, en matière biomédicale par exemple, même le clonage par exemple, enfin, des ouvertures, on va dire, ont été possibles, rendues possibles parce qu'on a brisé initialement le tabou du respect de la vie. Et finalement, aujourd'hui, la société, eh bien, elle baigne largement dans cette pratique qui est extrêmement répandue et qui est plus que normalisée, puisque maintenant l'avortement a été élevé au rang de liberté constitutionnelle, donc de valeur de la République. Moi, je pense que le texte sur l'euthanasie, s'il est adopté, il a aussi vocation, dans cette perspective, à devenir un jour, arriver un jour aussi à être reconnu comme une valeur de la République, parce que c'est vraiment une valeur fondamentalement symbolique et philosophique.
Alors, Grégoire Pupin, je vous rappelle que vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice à Strasbourg, un centre qui a relevé dans le projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée en deuxième lecture cette semaine, 14 points qui soulevaient de graves difficultés.
Oui, alors en fait, il y en a même plus que 14. On a commencé le travail après le vote en première lecture en mai 25. Et puis en fait, il y a encore d'autres problèmes qui sont majeurs. Donc aujourd'hui, il faudrait que je mette à jour cette liste pour en ajouter encore quelques-uns. Donc les problèmes sont nombreux. Mais le problème même qui n'est pas mentionné et qui est premier, c'est celui-ci. En fait, c'est... La France a adopté des lois sur les soins palliatifs. C'est très facile d'adopter des textes, hein, ça ne coûte pas très cher. On l'a fait dans le passé, on le refait maintenant, mais les soins palliatifs ne sont pas mis en place en France.
Il y a, je crois, près d'une trentaine de départements dans lesquels il n'y a pas de centre de soins palliatifs.
Voilà,
ce qui est considérable.
La moitié des personnes qui en ont besoin n'y ont pas accès en France. Donc ça, en fait, c'est rien que ça, il faudrait quasiment s'arrêter là. D'accord. Si la moitié des personnes qui en ont besoin n'y ont pas accès, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place? Bon, parce que ça coûte cher. C'est tout. La raison est là.
Or, la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté va porter aux soins palliatifs, pour des raisons financières, un coût décisif, mortel.
Bah, disons que c'est la version low cost. Vous avez les soins palliatifs, en fait, pour ceux qui ont soit des relations, parce que donc ils pourront obtenir une place parce que ils connaissent le médecin ou etc. Ou parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils peuvent payer. Mais en fait, on est en train de mettre en place l'alternative gratuite qui est simplement d'arrêter les soins palliatifs. Du point de vue purement utilitariste, ça sert à rien et ça coûte très cher. Puisqu'en fait, ça finance les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois de personnes qui vont mourir, qui ne sont plus productives. Ça coûte extrêmement cher, pourra-t-on dire, et ça sert à rien parce que ça rapporte rien à la société. Dans la pensée des promoteurs historiques de l'euthanasie, dans la pensée des mouvements eugénistes, même l'euthanasie a été toujours au XXe siècle promue comme étant une façon de faire des économies. Étant un pur calcul financier. Et on peut aussi étendre cela non seulement aux soins palliatifs, mais aux maisons de retraite. Les maisons de retraite coûtent cher. Vous avez les héritages qui fondent littéralement en mensualités payées aux maisons de retraite. Et donc, évidemment, les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années coûtent très cher. Et ça ne rapporte rien, à part de payer des salaires, certes, pour les aides-soignantes et les infirmières. Donc, je pense franchement qu'on fait semblant très largement de promouvoir les soins palliatifs parce qu'on ne prend pas les moyens de le faire. La demande ne va faire qu'augmenter parce que la population, comme vous le savez, est vieillissante. Le baby boom, il a 81 ans aujourd'hui. Donc il y a une grande demande, un grand besoin croissant. Et les moyens qu'on met en place, même qu'on annonce qu'ils vont augmenter, ne vont pas du tout augmenter en proportion du vieillissement de la population et donc en proportion des besoins. Donc, en fait, les besoins vont encore s'accroître par rapport aux moyens qu'on met en place. Donc, aujourd'hui, c'est la moitié. Demain, ce sera encore moins, même si on dépense l'argent qu'on a promis de dépenser. Donc, ça, c'est la situation. Alors, évidemment, c'est très pratique pour ceux qui sont un peu cyniques de dire d'un côté, regardez, on fait une magnifique loi de fraternité et une loi républicaine parce qu'on avance dans l'émancipation en matière de liberté. Mais d'un autre côté, évidemment, ça arrange aussi beaucoup de monde parce que si on est cynique ou utilitariste, ou si de toute façon on a une vision très matérialiste de la vie, on se dit, autant l'abréger, donc c'est, je pense qu'on est vraiment dans ces deux approches, et il y a une grande hypocrisie à l'Assemblée nationale sur ce point-là, parce qu'on se glorifie d'adopter un texte, ça veut dire de signer en bas d'une feuille, du papier, quoi, mais on ne met pas l'argent en face. Mais par contre, on adopte l'euthanasie. Alors l'euthanasie, évidemment, par contre, elle sera disponible partout, sur tout le territoire, jusque dans la moindre petite EHPAD, maison de retraite de village reculé. Le droit à l'euthanasie est garanti dans tous les établissements, doit être garanti dans tous les établissements médico-sociaux, y compris les plus reculés.
Parce qu'il y a un délit d'entrave à l'euthanasie, mais il n'y a pas de délit d'entrave aux soins palliatifs.
Non, mais ils ont refusé, vous savez, d'adopter un droit aux soins palliatifs. Donc là, ils se glorifient d'adopter un droit à la mort, ça veut dire un droit à la mort volontaire, à l'euthanasie, au suicide assisté, mais les parlementaires ont dit non, on ne va quand même pas reconnaître un droit aux soins palliatifs, parce que vous comprenez, les personnes qui en ont besoin pourraient porter plainte contre l'État en disant « Attendez, j'ai pas accès aux services ». Donc ça, non. Donc en fait, encore une fois, c'est sur le papier, mais la réalité des faits, c'est que demain, si ce texte passe, il y aura l'euthanasie partout et les soins palliatifs réservés à quelques-uns.
Et concrètement, ce sont les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir de grosses mutuelles, d'avoir une excellente couverture très coûteuse de la part d'une mutuelle. Ce sont les plus handicapés, ce sont ceux qui ont des difficultés psychiques encombrantes, dont on va se débarrasser rapidement. Oui. Finalement, cette loi, elle révèle un glissement qui a commencé depuis déjà pas mal de temps, d'une société dans laquelle la personne humaine primait à une société dans laquelle désormais l'argent et la logique comptable vont primer sur la personne humaine.
Donc les plus pauvres, vous avez raison. C'est pareil, encore une fois, j'insiste, la comparaison avec l'avortement, je sais que c'est souvent malvenu de parler d'avortement, mais il faut le faire parce que on nous parle de grande liberté, mais quand on regarde les statistiques, qui est concerné par l'avortement de façon disproportionnée? Les femmes pauvres et seules et isolées. Donc encore une fois, il y a un déterminisme social de l'avortement qu'on présente comme une liberté, mais qui affecte surtout les personnes, principalement les femmes vulnérables, principalement. Il en sera de même pour l'euthanasie ou le suicide assisté. Dans un premier temps, les personnes isolées, on traite très mal déjà les personnes âgées que l'on abandonne trop souvent dans nos maisons de retraite. La solitude, je pense que la solitude, c'est la pire des choses pour ces personnes. Et il faut bien comprendre que pour aujourd'hui, avec le texte tel que voté par l'Assemblée, les critères pour obtenir la mort, en fait, l'un des critères, c'est d'avoir une maladie grave et incurable, ce qui est le cas de beaucoup de monde. On peut avoir une maladie grave et incurable et vivre avec pendant des dizaines d'années. C'est le cas de beaucoup de monde. Ensuite, un état avancé, oui, certes, c'est aussi le cas de beaucoup de monde. Il faut ensuite subir une souffrance. Alors, les parlementaires ont retiré le caractère constant, une souffrance qui peut être donc passagère et insupportable. Réfractaire aux soins, sauf si on décide soi-même d'arrêter les traitements. Donc l'hypothèse qu'on peut avoir, c'est quelqu'un de malade, oui, qui en fait laisse tomber, renonce, perd pied et renonce à se soigner, à se battre, et en fait il suffit en fait de renoncer pour à l'effort, on va dire, pour rentrer dans le, dans les conditions pour obtenir l'euthanasie. Donc de nombreuses personnes sont malades, prennent des médicaments, et parfois rester en vie, ça demande un petit effort quand on est malade ou quand on est seul. Et donc si on lâche prise, eh bien, on pourra très facilement obtenir l'euthanasie. C'est déjà le cas dans d'autres pays, en Belgique et surtout en Suisse, où en fait on peut obtenir l'euthanasie sans motif médical réel, simplement par lassitude de vivre. Et ça, c'est très grave. Et je pense que c'est là où ce genre de loi nous conduit nécessairement. Ça veut dire que on ouvre une porte, et le fait d'ouvrir la porte de la mort, déjà, ça suffit pour inviter les gens les plus vulnérables à l'emprunter.
Alors il y a un argument, alors il y a de nombreux sophismes qui sont agités pour appuyer cette loi. L'un des sophismes les plus fréquemment agité est celui de la dignité, l'idée de mourir dans la dignité, par un détournement de ce mot de dignité que l'on fait résulter de l'autonomie de la volonté et de l'utilité économique de chacun, alors que la dignité découle en réalité de l'être, est attachée à chaque personne parce qu'elle est un être humain, indépendamment de son état de santé, de son état physique, de son état de dépendance, et du coup des soins dont elle a besoin. En revanche, le fait de prendre des dispositions qui font violence à la conscience de personnel soignant, qui font violence à la conscience des pharmaciens, qui font violence à la conscience de médecins ou d'étudiants en médecine, ça c'est tout à fait contraire à la dignité de ces personnes dont la vocation spécifique est niée et détournée.
Oui, alors la notion de dignité, en fait, pour les auditeurs, c'est une notion qui est complexe, qui a plusieurs sens dans le temps. Mais il y a, pour parler simplement, la dignité, être digne, c'est quoi ? Être digne, c'est se comporter à la hauteur de ce que nous sommes. Des parents indignes, c'est des parents qui ne se comportent pas comme de bons parents à l'égard de leurs enfants. Voilà. Donc être digne, c'est vivre ou être à la hauteur des exigences de ce que nous sommes, de notre nature. Et donc pour certains, effectivement, être malade, vieillir, serait en fait indigne parce que ce ne serait pas à la hauteur de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Ils estiment qu'ils vont déchoir en ayant une maladie neurodégénérative ou en ayant une souffrance, une maladie physique. Voilà, ils voient la vieillesse et cette forme de déchéance comme une indignité. Parce que pour eux, un homme digne, c'est un homme, et ils le disent souvent d'ailleurs les promoteurs de l'euthanasie, ils ont cette vision un peu nietzschéenne, hein. Ils disent qu'il faut mourir avec fierté quand on ne peut plus vivre avec fierté. Parce qu'ils ont une conception de l'homme qui est de la fierté. Ensuite, il y a une autre conception de la dignité, qui est celle plutôt de la relation, du respect et du soin. Et on peut dire, non, mourir avec dignité, c'est accepter déjà, bon, c'est pas se rebeller contre le fait qu'on soit aussi un corps, et c'est ça s'exprime par le sentiment, le soin que l'on peut avoir, la relation que l'on peut avoir avec les autres. C'est pas la force qui est la source de la dignité, mais c'est plutôt la relation, et on peut parler de soin, d'amour, de charité. Et donc, qu'est-ce qui est plus digne ? Et c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qui est le plus digne ? Qu'est-ce qui est vraiment humain entre soit se suicider ou être euthanasié parce qu'on a une maladie grave ou parce qu'on ne veut pas vieillir, soit accepter de vieillir et être entouré de soins dans cette vieillesse en essayant d'apporter le remède à la souffrance physique et aussi l'accompagnement psychologique et humain, et aussi, il faut le dire, spirituel. C'est ça la différence. les deux approches s'opposent. Pour les personnes qui s'occupent, pour les, par exemple, j'ai accompagné des religieuses qui s'occupent de personnes âgées, pour elles, évidemment que toute personne âgée est digne, et leur façon à elles de respecter cette dignité, c'est par l'attention, le soin, le respect qu'elles ont envers ces personnes âgées. Et c'est voilà, c'est une autre dignité qui, de mon point de vue, est beaucoup plus exigeante et beaucoup plus humaine, en fait, que la fierté nietzschéenne de décider de mourir parce qu'on estime qu'on n'est pas à la hauteur de l'idée qu'on se faisait de soi-même. Parce que je dois quand même dire que c'est quand même assez fréquent qu'on ne soit pas à la hauteur de l'idée qu'on se fait chacun de nous-mêmes. Et voilà, donc c'est une approche beaucoup plus, de mon point de vue, humaine de la dignité.
J'ajouterais que dans notre société, nous sommes très fréquemment, par l'atmosphère sociale dans laquelle nous baignons, incités à adopter un comportement qui n'est pas digne de ce que nous devons être. La dignité qui a déserté au cours de ces dernières décennies à tous les échelons de la vie sociale, est de nouveau agité ultimement comme un argument au moment de mourir. On nous a imposé de vivre dans des conditions indignes, mais au moment de la maladie, lorsque les soins commencent à coûter un peu cher à la sécurité sociale, alors la notion de dignité disparue ressurgit dans la discussion.
C'est ça, mais c'est pour nous flatter. C'est pour nous flatter et nous dire sois libre, accepte de mourir, enfin accepte d'être tué. C'est ça le discours. Donc oui, effectivement, c'est un paradoxe, mais il y a deux conceptions de la dignité qui sont radicalement opposées et qui ont des fondations anthropologiques sur la nature humaine, sur la relation du corps et de l'esprit. On pourra y revenir. C'est effectivement un aspect essentiel et qui parcourt toute l'histoire même de la pensée occidentale, hein, cette opposition entre les deux conceptions de la dignité. C'est pas du tout nouveau. Vous connaissez Philippe Pic de la Mirandole, n'est-ce pas, déjà, qui, dans son ouvrage sur la dignité, le Florentin de la Renaissance, qui exprimait cette autre conception de la dignité comme étant celle de l'auto-engendrement, de l'auto-perfectionnement, et de la, par rapport à la conception classique et chrétienne. Donc c'est vraiment deux écoles philosophiques qui coexistent et qui se confrontent. Et là, on est à une heure de vérité avec cette loi. Parce que ce sont ces deux approches, l'approche du soin d'un côté, et qui, de mon point de vue, est sacrifiée avec les soins palliatifs, et puis l'approche de l'affirmation de l'autonomie de l'autre côté avec le texte sur l'euthanasie et le suicide.
Alors, l'un des aspects les plus redoutables de cette loi, et j'ajouterais les plus pervers, est précisément la violence faite à la conscience des pharmaciens, des médecins, des étudiants en médecine, des personnels soignants, avec de ceux qui dirigent des établissements hospitaliers ou sociaux, qui viennent en aide
Oui.
à des malades, à des personnes âgées, et qui, par cette loi, sont mis dans l'obligation de proposer ou de mettre en œuvre le suicide assisté ou l'euthanasie, sans le moindre égard pour leur conscience, sans non plus le moindre égard à l'égard de la relation de conscience, pardon, de la relation de confiance qui lie ces établissements ou ces médecins à leurs patients.
Oui, alors c'est vrai. Il y a une volonté en fait d'imposer cette réalité nouvelle du suicide et de l'euthanasie, et donc cette conception nouvelle de la liberté et de l'homme. Et on peut pas concevoir en fait que des personnes puissent continuer à rester attachées à une autre conception de la dignité et de la nature humaine. Voilà, ce sont deux conceptions qui s'opposent. Il y en a une qui l'emporte dans la loi. Eh bien, la loi, enfin, du point de vue de ceux qui la portent, il est incohérent, il est même inconcevable que puissent coexister légitimement deux conceptions radicalement incompatible de la nature humaine. Parce que soit l'euthanasie est un meurtre, soit c'est un bien. Mais on ne peut pas dire que c'est à la fois un bien pour les uns et un meurtre pour les autres, et que les deux options sont légitimes. C'est-à-dire, si on dit, si on accepte dans la loi vraiment forte, clairement l'objection de conscience, ça veut dire que dans ce cas-là, on reconnaît comme parfaitement légitime le fait de considérer que l'euthanasie est un meurtre. Voilà. C'est-à-dire que c'est dans la loi. Oui, il y a une exception, l'objection de, il est légitime pour une personne de refuser l'euthanasie parce qu'il a un motif légitime d'estimer que c'est foncièrement immoral. Et donc, ça pose un problème de reconnaître l'objection de conscience. Maintenant, ils sont bien obligés parce que c'est la condition pour faire passer le texte, pour trouver un compromis et pour trouver une majorité. Donc, l'objection de conscience a toujours été une concession faite par les promoteurs de la morale nouvelle envers les parlementaires centristes qui disent « Oui, on veut bien que vous alliez très loin, mais à condition quand même de ne pas forcer la conscience de ceux qui ne voudraient pas. Voilà. » Mais pour l'avortement, la clause de conscience, elle est combattue, elle est réduite, elle a été réduite, et pour l'euthanasie, c'est pareil. Alors certes, ils ont accepté une clause de conscience limitée pour les médecins, parce que le médecin, certes, il n'est pas obligé de faire la piqûre lui-même.
Mais il doit fournir le nom d'un médecin qui pratique.
Voilà, c'est comme si vous
fournissez l'arme, en fait.
Voilà, et c'est la complicité. Et en plus, il faut que le médecin identifie quelqu'un qui veuille le faire. Donc, c'est vraiment la complicité.
En revanche, pour le pharmacien, il n'y a pas de clause de conscience du tout.
Aucune clause de conscience. Aujourd'hui, si un pharmacien délivre un poison, la même substance létale, donc un poison, eh bien, il va en prison. Demain, s'il refuse de le faire, il pourrait encore aller en prison s'il est poursuivi pour délit d'entrave. Donc, vous avez un renversement complet des obligations du pharmacien. Aujourd'hui, ce qui est un crime deviendra demain une obligation. Et s'il ne le fait pas, il pourrait être poursuivi à différents titres, notamment, éventuellement, au titre du délit d'entrave, qui punit de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende toute personne qui fait obstacle à la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté.
Nous retrouvons un point abordé par Aude Mirkovic tout à l'heure sur la relativité de la loi positive, un relativisme qui nuit à la crédibilité et à la légitimité de cette loi positive.
Ah oui, comment, Aude a parfaitement raison, comment peut-on obéir en fait, en fait, il faut comprendre, c'est que la loi, et ça a été très bien expliqué par Aude, elle a un rôle pédagogique. Elle n'est pas là pour dire, elle n'est pas là pour créer le juste ou l'injuste, elle est là simplement pour nous aider à le reconnaître, nous aider à le comprendre, à le reconnaître. Et donc, c'est que de la confusion. C'est-à-dire que le pharmacien qui a prêté serment de ne pas délivrer de substances létales pour devenir pharmacien, qui ensuite a vécu avec cette loi, maintenant change, il faut qu'il change sa morale en fait. Et donc c'est une violence réelle, en plus d'être une injustice. Ensuite, il y a encore une autre obligation qui est prévue dans le texte, c'est l'obligation pour tous les responsables de services et d'établissements médico-social ou médical d'accepter la pratique de la mort volontaire dans leur établissement. Et donc, tout établissement, public comme privé, y compris les établissements privés entièrement financé sur des fonds privés, sans aucun argent public. Tout établissement médico-social, ça veut dire les maisons de retraite, évidemment c'est elles qui sont visées en premier, mais aussi n'importe quel centre d'accueil de personnes handicapées, de personnes sans domicile, etc. Tous ces établissements ont l'obligation d'accepter la pratique de l'euthanasie en leur sein, et si le directeur ou de l'établissement refuse, eh bien, il peut être poursuivi pour délit d'entrave et donc susceptible d'être condamné à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
La conséquence, c'est que certaines congrégations religieuses ont d'ores et déjà annoncé qu'elles fermeraient leurs établissements, pourtant bien nécessaires au bien public, si cette loi devait être adoptée.
Elles ont annoncé qu'elles ne mettraient pas en œuvre la loi. Voilà. Et quitte à être condamné. Et ensuite, la condamnation, elle peut être pénale, comme je l'ai dit. Ensuite, il y a la seconde conséquence, même ce sont les autorités régionales de santé, les ARS, qui ont la main sur le financement de ces établissements. Et donc, même dès le lendemain de l'adoption de la loi, les ARS peuvent venir voir les congrégations religieuses qui gèrent, dirigent des maisons de retraite ou des cliniques, et leur demander « Dites-moi, comment mettez-vous en quelles mesures avez-vous adopté, quel parcours de soins mettez-vous en place pour mettre en œuvre la loi sur l'euthanasie ?» Alors là, la maison de retraite dira « Écoutez, nous, on est contre. Ah, comment ça, vous êtes contre, vous ne voulez pas le faire, etc. » Et donc, on peut vous couper les financements. Ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura non seulement la sanction pénale, mais il y aura aussi une perte de financement. C'est ce qui s'est passé au Canada pour certains établissements catholiques qui ont dû fermer parce qu'ils n'avaient plus de financement public à cause de leur position sur l'euthanasie. Et donc c'est une conséquence qui est... c'est un risque qui est très réel pour tous ces établissements.
Un grand merci, Grégor Pupinck. Tout ça nous montre que cette loi, non seulement, ce n'est pas une loi qui apporte sans retirer aux autres, elle va retirer à tous, contrairement à un sophisme fréquemment utilisé. Je rappelle, Aude Mirkovic, que les références de l'ouvrage que nous avons évoqué tout à l'heure, ensemble, Le droit naturel, une ressource pour notre temps, aux éditions Bolène. Il me revient à vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et à souhaiter un bon week-end à tous les auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal de Philippe Pichot-Bravard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 27 février 2026, de 19h30 à 21h, réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Et si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.